Premier temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des possibles, l'histoire alternative, une histoire expérimentale qui s'interroge sur les surprises que le passé nous réserve et ce qui aurait pu advenir. Mais dans la première partie de cette émission, après la fabrique de la guerre froide avec Anaïs Quin, nous recevrons Abraham de Swan. Il est professeur de sociologie à l'université d'Amsterdam. Et dans son dernier ouvrage, Diviser pour tuer, les régimes génocidaires et leurs hommes de main au seuil, il remet en cause l'idée selon laquelle des hommes ordinaires, entre guillemets, peuvent accomplir des meurtres de masse à propos du Rwanda, à propos de la Seconde Guerre mondiale ou de bien d'autres meurtres de masse du XXe siècle. On en discutera avec lui dans un instant. Et puis, pour ouvrir notre semaine consacrée à l'histoire alternative, nous accueillons Quentin Deluc, Hermos et Pierre Saint-Garavellou, tous deux auteurs de « Pour une histoire des possibles, analyse contrefactuelle et futur non advenu du passé ». Ils y font le point sur la « What if history » et expliquent en quoi établir des hypothèses sur des faits du passé non advenus peut être utile pour la discipline historique. Mais tout de suite, puisque nous sommes lundi, en ouverture de cette émission, la Fabrique propose le 21e épisode de notre feuilleton sur la guerre froide, la Fabrique de la guerre froide, concoctée par Anaïs Quin et Véronique Samouilov. Aujourd'hui, Fabien Théophilakis commente une archive de François Mitterrand en 1947 à propos du rapatriement des prisonniers de guerre.
We must remember that Australia, New Zealand and Canada
President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb.
I believed in a Soviet system, and here I was working for the FBI, the enemy.
La fabrique de la guerre froide. Le 12 décembre 1947, François Mitterrand, alors ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, s'exprime à la radio sur le conflit qui oppose la France et l'Union soviétique sur le processus de rapatriement des prisonniers ou internés français et soviétiques. La France est désormais dans le bloc de l'Ouest.
L'expulsion de la mission française de rapatriement à Moscou, sur l'injonction du gouvernement de l'Union soviétique, a été douloureusement ressentie par tous nos compatriotes et plus spécialement par les familles angoissées qui attendent encore le retour d'un des leurs. Cette expulsion, rien ne la justifie. Un accord avait été signé à Moscou le 29 juin 1945. Cet accord concernant l'entretien et le rapatriement des citoyens français et soviétiques se trouvant sous le contrôle respectif des autorités soviétiques et françaises a toujours été respecté par la France. On ne peut malheureusement en dire autant de l'Union soviétique qui, malgré nos démarches répétées, n'a pas exactement observé les termes de ses engagements. En effet, les anciens prisonniers civils ou militaires français se trouvant en territoire soviétique devaient être séparés des prisonniers de guerre ennemis, puis rassemblés dans des camps spéciaux en attendant leur rapatriement. Les mêmes dispositions étaient évidemment applicables aux citoyens soviétiques se trouvant dans les mêmes conditions en France.
C'est la voix de François Mitterrand jeune, c'est un des plus jeunes ministres du gouvernement Ramadier.
Fabien Théophilakis.
Et sa fonction comme ministre des anciens combattants s'inscrit dans sa trajectoire de prisonnier français en Allemagne, évadé, et ensuite dans son parcours entre Vichy et la Résistance. Et puis c'est ce destin de ces Français restés encore en 47 en Union soviétique, avec des souffrances et une attente des familles qui s'explique pas 3 ans après la fin de la guerre. Alors, il faut bien distinguer qu'il y a 2 grands groupes de Français qui sont encore en 47 en URSS. Il y en a une petite minorité qui sont ces prisonniers, anciens prisonniers de guerre, si vous voulez, à peu près 21 000 vont être rapatriés. Hein, et la grande majorité, comme l'archive le montre très bien, ce sont des Alsaciens mosellans, 18 000 sur ces 21 000. Et la grosse partie des Français qui, en 47, il faut le dire, ont été rapatriés depuis 1 ou 2 ans, c'est 300 000 Français qui ont été pris lorsque l'armée rouge a libéré l'Europe centrale, envoyant l'Union soviétique comme internés et pas prisonniers de guerre pour être rapatriés. Il faut bien distinguer les deux groupes, parce que les deux groupes ont un destin très différent. Les internés sont des victimes de la guerre pour les soviétiques et vont être très rapidement rapatriés. On connaît la voie par Odessa. En revanche, l'autre partie, donc l'autre groupe, qui sont les prisonniers de guerre, eux sont considérés, une fois capturés, comme des allemands, puisque sous l'uniforme allemand. Et là, on a un drame, je dirais que c'est intéressant, c'est qu'on est en 47, mais on a deux ou trois histoires qui se croisent. Le problème de la guerre du nazisme, avec d'un côté l'annexion de l'Alsace-Moselle, et donc de ces malgré nous, qu'on va appeler les incorporés de force dans l'historiographie. Et ensuite, d'autre part, la guerre, je dirais, d'extermination ou de destruction entre l'Allemagne et l'URSS, qui fait que les Russes considèrent tout prisonnier allemand comme un ennemi réel. Et ensuite, la guerre froide, qui va agir dessus et qui va glacer ou cristalliser ce rapatriement et qui va faire qu'en 47, on a un tournant. C'est que la guerre froide peut être, avec l'archive, être lue comme une tentative ratée ou contrariée de sortie de guerre avec une logique de seconde guerre mondiale qui est peu à peu effacée avec une logique de bloc. Qu'est-ce qui se passe en 47? Pourquoi il y a cette situation-là? Eh bien, quelques mois auparavant, le camp qui est cité plusieurs fois, qui est le camp de Beauregard, qui est un camp en région parisienne, a été investi par des CRS, 2000 CRS. La raison officielle et qui a fait grand bruit à l'époque dans la presse, c'est qu'il y aurait des enfants d'immigrés qui ont été emportés dans ce camp-là pour être renvoyés en URSS. Et donc, les Français investissent le camp, qui va être peu après dissous. Ce camp qui a été ouvert en 45, qui n'est pas un camp de prisonniers de guerre, donc qui n'est, voilà pourquoi dans le CICR ne va pas les visiter, qui est un camp vraiment de concentration des ressortissants soviétiques qui ont été soit sous l'uniforme allemand et prisonniers par les Français, donc prisonniers de guerre, soit des civils qui ont travaillé pour la Wehrmacht, pour l'organisation Todt, etc. Or, d'après l'accord de 44 et surtout de 45, c'est tous les ressortissants soviétiques dans ce cas-là devaient être renvoyés en URSS, comme les ressortissants français, qu'ils soient prisonniers de guerre ou internés, par réciprocité devaient être renvoyés en France. Le problème qui va se poser, et là on arrive dans une logique de guerre froide, c'est que à l'ONU, en février 46, une résolution est votée pour dire que les personnes déplacées, puisque c'est leur statut, si elles ne veulent pas retourner dans leur pays d'origine, ne peuvent pas être obligées. Et donc on a une logique, je dirais, libérale ou de libre décision du côté français, alors que les soviétiques considèrent que cette clause ne peut pas jouer, qu'il faut appliquer l'accord, et quelle que soit la vie individuelle, collectivement, ils appartiennent à l'URSS. Du côté soviétique, ça fait jouer, je dirais, une histoire interne qui est, ces populations, notamment civiles, sont des populations qui vont appartenir à partir de 45 à l'URSS, donc les pays baltes, l'Ukraine, la Biélorussie, qui ont été annexés par l'URSS en 45. Ces gens-là, bien sûr, n'ont aucune envie de retourner dans l'Union soviétique stalinienne, alors que pour les soviétiques, c'est justement le fait de reconnaître leur annexion qui est contestée par les alliés. Donc ces prisonniers de guerre, ces internés civils, des deux côtés, même si leur nombre est assez limité, deviennent des enjeux de sortie de guerre et, je dirais, de rapport de pouvoir Est-Ouest. Donc, suite à l'investissement du camp et au fait que les Français refusent notamment d'obliger ces populations maintenant soviétiques de France, vont eux-mêmes, par rétorsion, limiter ou arrêter le rapatriement. Voilà pourquoi, autant 4/5 des Français vont être rapatriés en 45, autant les derniers, donc quand François Mitterrand parle, il faut bien avoir en tête que c'est quelques centaines encore qui restent, hein, vont mettre beaucoup plus de temps à être rapatriés, puisque par rétorsion, les soviétiques vont limiter ou arrêter le rapatriement.
Voilà pour ce nouvel épisode de notre feuilleton, le 21e de notre feuilleton sur la guerre froide, la fabrique de la guerre froide, préparé par Anaïs Quin et Véronique Samouilov. Vous pouvez bien évidemment le télécharger séparément du reste de l'émission du jour pour pouvoir garder avec vous l'ensemble de cette série consacrée à l'histoire de la guerre froide. Et j'en profite pour dire que nous avons eu pas mal de messages depuis le début de la semaine dernière à propos de ce nouveau site internet de France Culture, des messages très positifs. Quelquefois, il y a des messages qui nous disent que certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas, ne marchent pas. Eh bien, ne vous inquiétez pas, toutes les équipes de France Culture au multimédia sont au travail pour pouvoir résoudre quelques-uns des problèmes, et en particulier la réécoute des émissions anciennes, ça va bientôt fonctionner. Bonjour Abraham de Swann.
Bonjour.
Bonjour Anaïs Quin.
Bonjour.
Abraham de Swann, vous venez de publier, vous êtes professeur de sociologie à l'Université d'Amsterdam, et vous venez de publier en français, donc au Seuil, un livre qui s'intitule « Diviser pour tuer », un sous-titre « Les régimes génocidaires et leurs hommes de main » dans une traduction de Bertrand Abraham qu'il faut saluer. En l'occurrence, Abraham de Swann, vous êtes donc professeur de sociologie, spécialiste de l'État, de son histoire en particulier. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur cette question des génocides et en particulier des génocides du XXe siècle ?
C'est toujours difficile de dire, hein. Ça ne se présente jamais comme un choix défini que je vais écrire un grand livre sur les génocides. on commence à faire quelque chose. Je suis commencé à écrire sur le Rwanda parce que dans les années 84-85, on était très choqués. Il y avait la Yougoslavie en train de se dissoudre. Il y avait le massacre rwandais.
Au milieu des années 90,
oui,
c'est ça ?
Oui, et on avait cru que ça n'arriverait jamais plus. Hein. Mmh. Quand même, une fois qu'on commence à étudier ces grands massacres du XXe siècle, on se rend compte qu'il y en a eu beaucoup qu'on ignore quasi totalement, comme l'Indonésie en 65, ou le Pakistan en 71. Et on se rend compte qu'il y a un silence quasi total là-dessus, et que personne n'a jamais été puni pour tous ces crimes. On ne parle même pas de l'Union soviétique, la Russie ou la Chine. Donc c'est un grand mal de notre espèce.
Alors, mal, ce terme, vous l'utilisez peut-être volontairement, parce que, en fait, le cœur de votre propos, c'est de critiquer de façon assez sévère ce que vous appelez la doxa Arendt, Milgram, Browning. Oui. Donc, Hannah Arendt, Stanley Milgram, celui qui faisait les expériences dans les années 60 aux États-Unis sur la volonté ou non de continuer à torturer des gens dans une sorte de laboratoire fictif. Et Christopher Browning, le célèbre historien qui a travaillé sur la 101e bataillon qui a combattu sur le front de l'Est, et en particulier en Biélorussie, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous dites que cette doxa qui dit, en l'occurrence, selon vous, que ces gens étaient des gens ordinaires, que donc chacun d'entre nous pourrait tomber dans la banalité du mal, et qu'on pourrait ainsi commettre des actes insensés alors que rien a priori ne nous y conduirait habituellement. Cela a couché, dites-vous, du grand cliché de notre époque. Nous sommes tous des génocidaires en puissance, mais nous ne nous sommes jamais trouvés dans la situation pour actualiser cette potentialité. C'est donc cela le cœur de votre livre, en l'occurrence, Abraham Goswami.
Oui. Et c'est un peu une histoire du possible. Si nous serions dans des circonstances extraordinaires, on pourrait, nous tous, faire des crimes extraordinaires. D'abord, c'est vrai. C'est-à-dire que l'impact, l'influence de la situation immédiate sur les comportements des gens est beaucoup plus grand qu'ils ne s'imaginent. Hein. Donc, le situationnisme, comme on l'appelle, c'est une partie très importante de l'idée du mal, des massacres.
C'est vrai, dites-vous, mais...
Mais, il faut poser une question en plus, que dans l'unanimité quasi universelle sur l'impact de la situation, on refuse de poser ce que peut-être quand même il y a des gens qui sont plus inclinés à...
Commettre des crimes de
commettre
masse.
Commettre des crimes de masse que des autres, et que peut-être il y a quand même des aspects de personnalité, une disposition, on pourrait dire.
Oui, vous parlez de disposition individuelle,
oui,
malgré tout.
Oui, oui. Donc je dis, il faut étudier cette question sur tous les niveaux, le niveau sociétal de la société, de la culture, le niveau du régime et des institutions, le niveau de la situation immédiate, et aussi le niveau de la personnalité.
Mais vous savez que votre livre a été publié en anglais, c'était l'année dernière, que vous l'avez écrit donc dans votre langue, à savoir le néerlandais.
Oui.
Vous savez qu'en le traduisant en français, vous vous attaquez à une icône française, Hannah Arendt, et que s'attaquer avec Hannah Arendt, surtout que vous réglez son cas en quelques pages, très rapidement,
Donc,
pour pouvoir aller ailleurs, vous prenez un risque, en l'occurrence, Ram de Sain, vous n'avez pas peur.
Oui, je sais qu'en français, elle est très respectée, pas sans raison, mais... Elle a écrit un livre sur Eichmann qui s'appelle, le sous-titre c'est la banalité du mal, ce qui est quand même un peu étonnant. Il s'agit de l'Holocauste, du Shoah. On peut dire quasi tout sur le Shoah, mais quand même pas qu'elle soit banale.
Non, mais vous dites, en fait, c'était peut-être pas le titre qu'elle voulait donner. Mmh. Elle voulait dire la banalité des hommes qui conduisent, qui commettent le mal.
Donc, elle a été séduite par un beau titre, ça arrive très souvent. Mais ce qui est plus sérieux, qu'elle aurait pu savoir déjà en 61... que Eichmann n'était pas l'innocent, le petit rouage dans le
dans la grande machine,
dans la grande bureaucratie. Donc Eichmann lui-même a protesté cette idée. À un certain moment, il a oublié sa stratégie, il a dit « mais dann war ich doch ein Trottel gewesen », il dit « alors j'aurais été quelqu'un sans importance ». Donc c'était très difficile pour lui de poser comme rouage, parce que c'est un chasseur de juifs fanatique, frénétique, sans égal. Donc c'était le dernier exemple, le plus mauvais exemple de la thèse de Hannah Arendt. Et ce qui est quand même un peu plus sérieux, c'est qu'elle n'a jamais avoué qu'elle avait tort. Et depuis, il y a eu beaucoup de biographies, César Annie, Stangnet, qui ont donné un portrait tout à fait différent de Eichmann et beaucoup plus réaliste. Et quand même, les admirateurs de Hannah Arendt n'y trouvent pas de raison pour corriger cette image. Alors là, il y a quand même quelque chose au cœur de la philosophie de pardonner quasi tous les erreurs des philosophes une fois qu'ils sont devenus leurs idoles.
Oh, puis nous, les historiens, on pardonnerait très volontiers à Christopher Browning, qu'on a lu et qu'on a aimé, en l'occurrence, ce que vous ne lui pardonnez pas, c'est-à-dire cette expression des hommes ordinaires. Parce que vous dites, c'est un très grand livre, dites-vous, le livre sur les hommes ordinaires de Christopher Browning, vous ne le contestez pas, mais vous dites cette notion d'ordinaire, etc., est-ce bien cela? Est-ce que, tout compte fait, ces gens qui s'engagent, qui sont dans cette brigade, ce 101e bataillon, sont-ils si ordinaires que cela, puisqu'au bout du compte, ils sont quand même rentrés dans ce bataillon-là, et donc il y a peut-être à travailler sur leurs origines sociales, et les crimes qu'ils commettent sont peut-être dus à autre chose qu'à ce qu'on a dit, la brutalisation de ce front de l'Est, etc. etc.
C'est-à-dire qu'il y a une différence là, très importante. Browning lui-même a dit « oui, peut-être je n'aurais pas dû l'appeler « ordinary man », mais « ordinary Germans ». Parce que c'était les Allemands ordinaires qui avaient été formés par leur expérience du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, hyperinflation, la grande crise économique, le nazisme, la propagande le plus vil qu'on a jamais expérimenté. Donc, les Allemands ordinaires de cette époque n'étaient pas des gens ordinaires. Et Browning, il a avoué, il a dit oui quand même, j'aurais dû le faire un peu différent parce que lui c'est un chercheur et c'est pas un fantaste.
C'est pas très gentil pour les autres en l'occurrence. Continuez donc sur votre lancée, pourrait-on dire, dans ce livre Divisé pour tuer, Abraham de Swann, en vous demandant justement à partir de divers exemples, tous les exemples du XXe siècle pourrait-on dire, mais vous remontez aussi plus loin, vous dites tout compte fait, avant le XXe siècle, il y a déjà eu des crimes de masse qui malheureusement ne sont pas pour certains d'entre eux documentés, donc on ne peut pas en dire grand-chose. Mais sur ce XXe siècle, vous dites, il y a le génocide des Arméniens, il y a des conflits qui font le Congo belge, le Rwanda, il y a l'Indonésie de 1965 avec la chasse au communisme, aux communistes et en particulier.
Et les guerres d'Aceh que les Néerlandais préfèrent oublier complètement, où ils ont tué peut-être 100 000. Il n'y a aucun œuvre professionnelle historique sur le génocide néerlandais en Aceh.
Ouais.
Comment ça se produit? On oublie.
Et c'est un Néerlandais qui parle en l'occurrence.
Oui, je pose la question.
Alors, donc, vous prenez tous ces exemples et vous tentez de définir une sorte de catégorisation, pourrait-on dire, des conditions dans lesquelles on peut commettre des crimes de masse. Et vous dites, il y a quatre figures, selon vous. La frénésie des vainqueurs, on voit bien ce que ça veut dire. On gagne sur son adversaire et on commet des crimes de masse. La domination par la terreur, et là vous mettez en cause l'URSS stalinienne, la Chine des premiers temps, la Chine du premier temps du communisme, ou encore l'Indonésie en 1965. Le triomphe des vaincus, donc c'est une fois que le régime est aux abois, eh bien il se dit tout compte fait, quitte à perdre, autant faire le plus de morts possible, c'est la défaite inexorable. Et c'est par exemple, c'est l'exemple que vous donnez, c'est la Turquie, l'Empire ottoman au moment du génocide des Arméniens, ou encore les Khmer Rouges ou l'ex-Yougoslavie. Et enfin, ce que vous appelez le mégapogrom, donc des massacres de masse qui sont désordonnés, pourrait-on dire, mais plus ou moins couverts par un pouvoir plus lointain que pour les trois autres exemples. C'est ça, vos quatre figures, selon vous. Comment en êtes-vous parvenu à définir ces figures-là, Abraham de Swann?
je me tais un peu. C'est-à-dire que un sociologue historique et comparé comme moi essaie de voir des régularités dans le chaos de l'histoire. Et de temps en temps, on croit qu'on voit un modèle. Et là, il y a peut-être quatre modalités que vous avez nommées. Mais il faut toujours... C'est une tentative. On essaie de trouver ces régularités.
Tout en sachant... Ici,
je crois que ça explique quand même beaucoup.
Vous citez souvent Norbert Elias, tout en sachant que ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, qu'il y a des exceptions à la règle que vous énoncez vous-même, etc. etc. Anaïs Quien.
Oui, et puis il y a peut-être des angles morts aussi. Cette question des dispositions individuelles des génocidaires qu'on évoquait tout à l'heure reste quand même quelque chose de difficile à prendre en main, de difficile à analyser.
Extrêmement difficile parce que les méthodes normales de l'ethnographie, de l'anthropologie ne fonctionnent pas. On ne peut pas aller étudier sur le champ les bourreaux quand ils travaillent. Donc la source la plus importante, ce sont les documents judiciaires. Mais là déjà, les bourreaux se présentent comme des innocents.
Oui, on est dans le discours d'après.
Oui, tout à fait. Donc c'est très difficile, mais... J'ai fait une conjecture et je me suis comparé au mathématicien Fermat qui avait fait sa grande conjecture et après 3-4 siècles, on l'a confirmé. Et cette conjecture, c'est qu'il y a, à base de tout ce qu'on sait sur les meurtriers, qu'il y a trois aspects dans lesquels ils sont souvent, à un certain degré, différent de beaucoup d'autres gens. Donc c'est une distribution de probabilité. C'est pas net. D'abord, ils ont une conscience, oui, une conscience morale, mais qui est complètement restreinte à leurs camarades de lutte, ou ils ne se luttent pas, leurs camarades de crime, leurs supérieurs, leurs commandants, et leur famille. Et tout le reste peut gréver. Et ils sont toujours prêts à aider un peu. Deuxièmement, ils n'ont pas de sens de agentivité.
Agency en anglais.
Agency, oui, voilà. Ils n'ont pas le sens qu'eux, ils ont choisi. Ils sont l'auteur de leur propre vie, mais plutôt qu'ils flottent, que ça arrive. Ils ont finalement choisi de ne pas choisir. Et troisièmement, ils n'ont pas de compassion. Ils ne savent même pas ce que c'est. C'est étonnant l'absence d'une certaine empathie et puis du sympathie. Donc là, dans ces trois respects, beaucoup des meurtriers diffèrent à un certain degré de la plupart des autres gens.
Et donc, ça voudrait dire que tout le monde, parce que c'est quand même ça ce que vous tentez de montrer dans votre livre, Abraham de Swann, ne peut pas aller simplement... jusqu'à devenir un criminel de masse, par exemple.
Oui.
Pour contrer justement cette...
C'est plus probable pour les uns, plus probable pour les uns que pour les autres.
Mais vous voyez bien qu'il y a une complexité dans votre approche, Abraham de Swann, qui est que vous maniez des sciences très variées. Vous maniez la psychologie, la psychanalyse, la sociologie, puisque vous êtes sociologue de formation, l'anthropologie, parce qu'elle est nécessaire parfois pour comprendre les contextes dans lesquels se commettent ces crimes, l'histoire, etc. Vous faites une histoire qui est presque totale à travers cette image de ceux qui, justement, sont des criminels de masse. Et certains vont vous dire, sûrement, mais vous n'avez pas, sur tel ou tel point, la capacité ou la connaissance suffisante pour pouvoir aller jusque-là, en l'occurrence Abraham de Swann.
Oui, je voyage sans papier d'abord, mais j'en ai quand même, parce que je suis un psychanalyste formé, j'ai un doctorat en sciences politiques, j'ai quand même des papiers, mais je préfère voyager n'importe où dans les sciences humaines qui sont mon royaume.
Oui, et donc ça veut dire que, justement, quand on fait comme vous, quand on passe les frontières, quand on saute au-dessus des frontières disciplinaires en particulier, on voit des choses, c'est ce que vous pensez, que d'autres peut-être, enfermés dans leur catégorie,
tout à fait,
ne voient pas.
Oui, et on fait des fautes que les autres ne feraient pas. Mais quand même, c'est vrai que c'est très important qu'il y ait des gens qui ignorent ce qu'on appelle des frontières, qui d'ailleurs n'existent pas, mais qui voyagent. dans le grand monde des sciences sociales. Je donne un exemple. On a étudié tout ce qui s'est passé dans les années 45-48 en Europe centrale et les grands massacres et les grandes expulsions des Allemands. On préférait ne pas en parler, mais ça s'est passé. Mmh. Et puis, il y avait d'autres qui ont étudié l'indépendance et la sécession, la partition de l'Inde, où des choses très semblables sont arrivées, mais ces groupes de chercheurs ne se sont jamais croisés, et dont on ne s'est pas rendu compte que ces choses étaient très parallèles. Mmh. Et je les ai appelés tous les deux des mégapogroms, et c'est ça le grand avantage de la sociologie comparée, que tout d'un coup on voit qu'il y a des choses qui se passent dans l'occasion.
Quentin de Luermoz, qui va intervenir dans la deuxième partie de cette émission, vous a lu et voulait vous poser une question ou faire une remarque, Quentin de Luermoz.
Oui, c'est juste une remarque assez générale pour préciser que Abraham de Soene est comme quelqu'un de très connu des spécialistes de la violence et de l'ordre social.
Et vous-même, vous avez animé avec deux autres historiens un séminaire. Vous animez sur un séminaire sur les paroxysmes.
Exactement. C'est pour ça que le livre, on s'y intéressait immédiatement. Alors Abraham de Soene, vous l'avez dit, hein, vous êtes très inspiré par les analyses de Norbert Elias. Oui. Et on le retrouve dans votre livre, hein, cette capacité de voyager du temps très long au temps très court, de mêler les institutions, les relations sociales et le psychologique. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que d'une certaine manière, dans votre ouvrage, vous proposez une sortie d'un débat qui était très fort en France, qui a tourné autour de la Première Guerre mondiale, qui opposait contrainte et consentement. Et vous montrez très bien, au fond, qu'on n'a pas des individus qui débarquent de nulle part, que tout est pétri d'histoire, et que pour basculer dans l'acte de tuer, au fond, il y a un mélange des deux, permanent, entre contrainte et consentement, qui font que certains vont y basculer plus que d'autres. Et donc, du coup, le livre est quand même intéressant aussi pour le débat strictement français autour de cette question qui a été très, très forte.
Très vive, même.
Ouais. Abraham de Soene, oui. Peut-être une des choses qui... que j'aurais voulu trouver sous votre plume. Il y a toujours, c'est comme dans un dictionnaire, on voit ce qu'il n'y a pas, alors qu'on peut apprécier tout ce qu'il y a. C'est ce que j'appelle, mais c'est peut-être un mauvais terme, l'imaginaire des acteurs. C'est-à-dire, vous évoquez cette question-là, mais vous la passez un peu rapidement. C'est-à-dire tout cet imaginaire historique qui nous fait nous raconter des histoires, pourrait-on dire, autour du passé. C'est-à-dire qui nous fait nous imaginer comme les successeurs des chevaliers teutoniques pour sûrement certains de ceux qui combattaient dans la Wehrmacht, par exemple, ou les successeurs d'autres populations, etc., quand on est dans un autre territoire, etc. C'est une donnée aussi que vous prenez en compte, cette question des imaginaires qui nous font agir au bout du compte.
Oui, par exemple, quand on a appartenu à un grand empire qui est en train de dissoudre, comme par exemple l'Union soviétique et Russie, beaucoup de citoyens ont le sens qu'ils méritent mieux, qu'ils étaient privilégiés, qu'ils ont le droit de dominer le monde, au moins l'Europe de l'Est. Et il y a un sens de déception et aussi de entitlement, d'avoir le droit de dominer. Et là, il y a tout un imaginaire qui est très dangereux et qui est très explosif.
Et ça fait très peur, parce que quand on vous lit... et qu'on l'applique à nos sociétés européennes aujourd'hui qui sont en retrait sur elles-mêmes, qui se renferment sur elles-mêmes, qui construisent, comme vous le dites, des compartiments, qui compartimentent certaines catégories de leur population, et en particulier aujourd'hui les populations venant des anciens territoires, des colonies par exemple, etc. On se dit qu'il y a quelque chose en construction qui peut être tout à fait terrible, qui nous attend, ou qui pourrait nous attendre en vous lisant Abraham de Soene.
Oui, c'est le plus grand danger qui nous menace, c'est qu'on compartimente nos sociétés, qu'on divise la population dans des catégories différentes. Ça, c'est un grand danger.
Je vous remercie beaucoup, Abraham de Soene, d'être venu donc dans notre émission pour présenter votre livre « Diviser pour tuer, les régimes génocidaires et leurs hommes de main » qui paraît au Seuil. Merci encore d'avoir fait le chemin jusqu'à nous.
Merci.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
extrait de La Danse de la Fureur, extrait de, du Quatuor pour la fin des temps de Olivier Messiaen dans une interprétation de Myung Woon Chung au piano, de Jin Cham au violon, de Paul Meyer à la clarinette et de Jiang Wang au violoncelle, pour faire la transition avec notre deuxième sujet du jour, à savoir le livre de Quentin de Lermoz, Pierre Saint-Garavelou, Pour une histoire des possibles, analyse contrefactuelle et futur non advenu du passé. Vous nous le présentez, Anaïs Kien?
Oui, alors peut-être pour commencer d'ailleurs et rebondir sur cette pièce de Messiaen, cette question de la fin des temps, qui pour moi va totalement à contre-courant de l'importance de cet ouvrage pour une histoire des possibles, puisque pour moi c'est véritablement le remède à un fatalisme du moment, un fatalisme ambiant, qui nous permet aussi de sortir d'une pensée de l'histoire systématiquement advenue et finalement non maîtrisable, non réflexive. Et dans cet ouvrage, donc, quand de Lermoz, Pierre Saint-Garavelou, vous revenez sur toute une généalogie de l'Uchronie, de l'histoire alternative. Vous nous proposez également des exercices que vous avez menés, et c'est peut-être la partie la plus ouverte et la plus directement accessible. Si je devais conseiller à quelqu'un de non-historien de commencer cet ouvrage, je lui proposerais de commencer par ce compte-rendu que vous faites d'une rencontre collective en 2011 à Grenoble, où vous avez proposé à un groupe, lors d'un forum de la République des idées, à un groupe de se soumettre à deux propositions, deux réflexions autour de deux moments, un processus de longue durée et un événement, pour tenter de voir un petit peu ce qui ressortait d'une tentative contrefactuelle collective. Alors peut-être, Quentin de Lermoz, vous pouvez nous toucher deux mots de cet exercice de groupe qui tentait de proposer cet exercice. Alors d'abord sur la question de l'absence de traite atlantique, s'il n'y avait pas eu de traite atlantique et s'il n'y avait pas eu d'esclavage, qu'aurait été le monde aujourd'hui? Et le deuxième turning points, comme vous les appelez, qui était le choix d'un événement, puisqu'il s'agit de la fuite du roi, mais cette fois une fuite réussie en 1791.
Oui, merci pour cette présentation. Vous avez bien montré la diversité des formes possibles que peut prendre heureusement contrefactuel. Alors effectivement, on pense plus spontanément à l'Uchronie. On en a entendu beaucoup à l'instant dans la bouche d'Abraham de Swann. Hein. Dès qu'on a une analyse en termes de conditions de possibilité, on a des contrefactuels. Ça, c'est le contrefactuel de la recherche. Et puis, il y en a un qui est aussi celui de la transmission. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mené cette expérience? Pour une raison très simple, c'est que quand on se met en situation de raisonnement contrefactuel, comme il s'agit de penser des passés qui auraient pu, des futurs qui auraient pu advenir, Ça réduit un petit peu le décalage entre l'expert historien et le non-expert qu'est le public. Ça facilite d'une certaine manière l'échange. Alors ça ne veut pas dire qu'on dit n'importe quoi, parce que dans ces exemples-là, on n'a fait qu'amener d'une certaine manière de la matière historique. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on voyait bien que tous les historiens en ont posé. Mais l'exercice contrefactuel a permis un débat, une discussion beaucoup plus à égalité entre l'historien et son public. Et d'ailleurs, on a beaucoup appris des réflexions du public à ce moment-là.
Alors, Pierre Saint-Garavelou, tout de même, votre tâche n'est pas si simple que cela, puisque vous expliquez dans la première partie du livre combien il y a déjà eu d'autres historiens qui se sont intéressés à cette question-là, Fernand Braudel en particulier, mais également dans un très beau livre qui s'appelait « L'altère histoire » Daniel Milhaud et Alain Bourreau, qui tentaient de dire, bah, écoutez, si on réfléchit par exemple, si la date de notre ère ne commençait pas à la naissance du Christ, mais à la passion du Christ, 33 ans plus tard, eh bien, d'un seul coup, le 18e siècle ne serait plus le 18e siècle et la Première Guerre mondiale ou la Révolution d'octobre se trouverait au 19e siècle. Qu'est-ce que ça changerait dans notre vision de l'histoire, par exemple? Ça, c'était une hypothèse qu'avait émis, entre autres, Daniel Milhaud dans ce livre sur l'altère histoire. Et vous dites, en fait, ils ont été très mal accueillis par les historiens. C'était un peu la même chose de la tentative qu'avait faite, il y a quelques années, Fabrice Dalméda, Anthony Rollet, qui s'appelait « Si on refaisait l'histoire ». Au bout du compte, tous ceux qui se sont lancés dans cette hypothèse de se dire, voilà, il s'était passé autre chose dans le passé, ont toujours été ramenés dans leur but en tant qu'historien en disant ça n'est pas le travail de l'historien, du moins en France, parce que ce que vous expliquez, c'est que dans d'autres pays, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, tout cela est tout à fait accepté par les instances universitaires.
Oui, il est difficile de répondre rapidement à cette absence de réception de l'histoire contrefactuelle en France. On peut apporter quelques éléments d'explication, mais il faut d'abord dire quand même que les chercheurs et les historiens français se sont très tôt intéressés à la question de la fiction et de la narration en histoire. Est-ce que ça pouvait apporter à l'histoire contrefactuelle, notamment Revel en France? Il faut aussi dire que plusieurs
historiens éminents de Paul Veyne à Antoine Prost se sont intéressés à cette question-là, mais c'est vrai que plus largement, les historiens français sont réticents. Alors, quelle explication ? Peut-être d'abord une explication scientifique, en remontant à l'histoire méthodique à partir de la fin du 19e siècle, on voit bien que l'historiographie française s'est construite en important la méthode scientifique allemande, et donc contre une histoire romantique, une histoire littéraire qui s'est perpétuée jusqu'au XXe siècle, par exemple en Grande-Bretagne, où les historiens très légitimes écrivent, rédigent des uchronies jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et puis évidemment, dans l'entre-deux-guerres, les annales, qui vont marquer pour plusieurs décennies l'historiographie française, critiquent vertement cette approche contrefactuelle. On peut penser à Marc Bloch, qui, lorsqu'il évoque cette question à propos de 1848, et s'il n'y avait pas eu le fameux coup de feu sur le boulevard des Capucines, eh bien lui, il répond tout simplement, c'est une question vaine. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle manque l'essentiel, et l'essentiel, c'est la longue durée. Donc en fait, ça c'est la première explication scientifique. Une explication institutionnelle assez simple, c'est que l'université française est sans doute moins ouverte sur l'extérieur, le champ médiatique, l'international que l'université anglophone. Et puis la troisième explication est très importante à notre avis, on y a travaillé justement avec Quentin, c'est une explication sociopolitique qui concerne la place du récit national dans la société française. En effet, le récit national en France, eh bien, suscite toute une série de crispations identitaires, crispations idéologiques, et donc il semble difficile de jouer avec ce récit national.
Anaïs Kien.
Et pourtant, il y a quand même un danger à proposer ce type de thème, ce type d'étude, lorsqu'on parle de contrefactuel, d'histoire alternative, histoire des possibles, de what if history. On se confronte bien souvent à un public assez dubitatif qui relègue ces propositions à la lisière du sérieux, à la lisière de la solidité de la discipline historique. Mais finalement, qu'est-ce que ça permet à l'historien d'utiliser cette méthode? On est quand même dans cette question-là, le métier d'historien est de se poser des questions. Finalement, comment cela aide la matière, la discipline historique d'entrer dans cette proposition contrefactuelle, Quentin de Luermoz?
Oui, c'est parce qu'en fait, il y a une confusion entre deux choses. Il y a d'une part, quand on pense contrefactuel, on pense à l'uchronie, c'est-à-dire des alternatives romancées qui s'appuient sur un grand personnage ou un grand événement.
On en parlera mercredi à propos du Maître du Haut-Château de Philippe Cadic, voilà. Par exemple.
Donc ça, en tant que lecteur de littérature, ça produit une littérature extrêmement stimulante, puisque ce que j'ai dit
tout à l'heure... Et très populaire.
Très populaire. L'intérêt de l'uchronie, c'est que comme vous comparez en permanence ce qui aurait pu arriver par rapport à ce qui est présenté, à ce qui est arrivé, ça induit une participation extrêmement active du lecteur. Mais pour le chercheur en histoire, évidemment, c'est très pauvre, puisqu'on a à nouveau une histoire des grands événements, une histoire des grands hommes, et puis l'alternative est complètement romancée. Mais ça n'est qu'une des formes du raisonnement contrefactuel. Le raisonnement contrefactuel, ça consiste à demander qu'est-ce qui se serait passé si telle donnée n'était pas arrivée. Ça peut prendre des formes très modélisatrices, on en voit beaucoup en économie, ou en sociologie historique, on l'a montré tout à l'heure. Dès que vous avez une pensée en termes de conditions de possibilité, il y a un contrefactuel. Ou encore, tout simplement, la question du possible en histoire. C'est-à-dire que si vous voulez sortir de l'idée que les choses se sont forcément passées ainsi, vous devez poser à un moment ou à un autre un raisonnement contrefactuel.
Et renouveler finalement le questionnement. Là, on est vraiment devant l'historien dans son laboratoire qui bute sur un document, sur une source, et qui ne parvient pas à lui poser d'autres questions que les questions auxquelles il a déjà les réponses, d'une certaine façon, à ce qui est déjà advenu.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de ce moment-là, l'usage premier, c'est la lutte contre la théologie, l'histoire linéaire. À partir de là, avec Pierre, dans le livre, on a dégagé toute une série d'usages possibles, très variés. Une imagination qui permet d'imaginer d'autres issues pour enrichir la compréhension de l'événement lui-même. Un très grand usage qu'on connaît très mal dans l'ordre des causalités, pour identifier les causalités historiques. Ou encore pour déconstruire les grands récits de l'entendement historique.
Pierre Saint-Garavelou, sur ces points.
Oui, alors parmi ces différents usages, ce que Quentin n'a pas eu encore le temps de présenter, il y a pour nous aussi un autre intérêt, c'est celui de s'intéresser au futur craint et espéré des acteurs du passé. Et donc ça permet pour le coup, alors c'est une incidence politique très forte que vous avez évoquée, Anaïs, en commençant l'entretien. Cela permet, alors c'est Walter Benjamin qui a évoqué cette dimension assez tôt, au fond, en réouvrant les futurs du passé, cela permet de réarmer notre capacité d'action dans le présent.
D'agir.
D'agir, exactement. Donc cette incidence politique, on la retrouve aussi dans des contrefactuels qui sont plus moraux, plus politiques. Par exemple, on les voit aujourd'hui, un usage très concret du contrefactuel dans le cadre des campagnes de réparation des préjudices causés par l'histoire, la traite, l'esclavage, le génocide juif. Eh bien, les avocats, les historiens qui animent ces campagnes, eh bien, effectuent des travaux d'histoire contrefactuelle pour mesurer très concrètement, financièrement, le préjudice subi en comparant l'histoire telle qu'elle aurait dû être, le cours normal de l'histoire, et l'histoire telle qu'elle est advenue.
Oui, c'est ce dont on débattra d'ailleurs jeudi autour de la question de l'histoire du droit dans cette semaine, en l'occurrence, Quentin de Lermoz. Il n'y a pas que les historiens qui s'intéressent à ça. Les gens qui travaillent dans la matière judiciaire, dans le droit, s'intéressent à ces questions, effectivement, liées à ces possibilités non advenues du passé.
En fait, toutes les sciences sociales qui sont intéressées soit aux formes de modélisation, soit confrontées directement à la contingence, mobilisent un peu plus facilement que les historiens, c'est paradoxalement, le raisonnement contrefactuel, qui est un raisonnement spécifiquement historien, puisqu'il s'agit d'imaginer un autre cours du devenir historique. Alors, vous avez dit, effectivement,
les juristes,
les économistes également, Robert Fogel, qui est un des...
Alors, Robert Fogel, dont Edward P. Thompson disait pas du bien, j'ai lu qu'il disait « les fictions contrefactuelles, Edward P. Thompson, sont toutes de la merde non historique », disait-il. Ouais. Bon, parce qu'il y a une certaine école marxiste anglaise en particulier, qui était représentée par Exome aussi, qui, même s'il s'est livré à certains exercices, a évolué, n'aimait pas beaucoup cet exercice contrefactuel à propos de l'économie en particulier.
En fait, ce qu'il n'aimait pas, c'est ce qu'il y a derrière. Dans le cas de Thompson, ce qu'il n'aimait pas, c'est l'idée que le raisonnement de Fogel, c'est-à-dire d'imaginer ce que serait devenu le développement historique économique des États-Unis sans les chemins de fer, au fond, il serait arrivé la même chose. Ce qui agace Thompson là-dedans, c'est que c'est un raisonnement très asséché qui oublie complètement ce qu'on disait tout à l'heure, l'agency des acteurs et les interactions qui font le devenir historique. Mais chez Thompson, si vous regardez son histoire de la classe ouvrière britannique, à partir du moment où vous étudiez une classe qui est un rapport de force, il y a une place pour le raisonnement contrefactuel qui est très forte. Même chose pour Hobsbawm, ce qui agaçait Hobsbawm, c'est la place du grand homme. Mais d'une certaine manière, ça n'invalide pas du tout une réflexion sur le possible.
Pierre Saint-Garavelou, et je crois qu'Abraham de Swann va vouloir vous poser une question ensuite.
Oui, en effet, il ne faut pas confondre histoire contrefactuelle, histoire des futurs possibles, avec l'histoire alternative, hein, tout simplement. L'histoire alternative a souvent peu d'intérêt, voire pas du tout d'intérêt pour l'historien.
Alors, définissez-les.
Alors, imaginez,
pour les auditeurs qui ne verraient pas.
C'est-à-dire l'histoire alternative, c'est tout simplement prolonger très loin. L'histoire de ce qui aurait pu advenir au-delà du point de bifurcation. C'est-à-dire, par exemple, imaginez la conquête de l'Europe et de la Grande-Bretagne par Napoléon si les Français avaient remporté Waterloo.
Ça, c'est
en réalité, cette histoire a très peu d'intérêt pour l'historien. Elle risque au contraire de tarir l'imagination historienne, de l'appauvrir. Mais il est intéressant de se poser la question du contrefactuel et si Napoléon avait remporté la bataille de Waterloo. Tout simplement parce que d'abord, ça invite l'historien à revisiter les projets de Napoléon lui-même à partir de 1803-1804 de conquête de la Grande-Bretagne. Ensuite, ça conduit l'historien à étudier les raisonnements contrefactuels formulés par Napoléon lui-même à la fin de sa vie à Sainte-Hélène, où il imagine ce qu'il aurait fait s'il avait conquis la Grande-Bretagne, c'est-à-dire abolir la Chambre des communes, instaurer une nouvelle devise pseudo-républicaine. Et puis, ça nous invite enfin à étudier le champ politique britannique, par exemple, notamment la position des radicaux britanniques qu'on a souvent tendance à oublier, radicaux britanniques qui considèrent Waterloo comme la dernière chance, le dernier possible politique républicain pour la Grande-Bretagne.
Mm-hmm. Abraham de Swann, vous vouliez poser une question.
J'ai une question à poser. Vous avez dit au début qu'on ne peut pas dire n'importe quoi dans le what if, histoire contrefactuelle. Et alors, quelles sont les règles que vous vous êtes imposées? Quelles sont les limitations?
Quant à de Lermoz.
Alors, il en existe déjà. Les spécialistes de sciences politiques, notamment américains, ont posé toute une série de règles pour un bon usage du contrefactuel, donc une règle de continuité, une règle de cohérence, etc. Nous, avec Pierre, ce qui nous gêne dans cette approche, c'est que ça définit aussi une trame implicite de ce qui est censé être le réel. Donc on retrouve cet usage un peu plus appauvri. D'une certaine manière, les meilleurs contrefactuels qu'on a eus, c'était sur les périodes qu'on connaissait le mieux. Je donne juste un exemple. et qui est pas de moi, mais qui est plutôt de Pierre. Il a étudié la révolte des boxers en 1900, qui est, comme chacun sait, une victoire des Européens sur les Chinois. Et la question qui s'est posée, c'est, et si c'est les Chinois qui avaient gagné? En fait, en posant cette question, on se rend compte que c'est concrètement ce que pensent la plupart des autorités chinoises. C'est ce qui est placardé dans la ville. Puis quand on réfléchit encore un tout petit peu plus, on se rend compte que concrètement, pour l'Empire chinois, c'est réellement une victoire parce qu'ils ont réussi à empêcher d'une certaine manière, à contrôler la stabilité de l'Empire. Parce que quand on regarde les archives, on se rend compte que les forces militaires chinoises étaient beaucoup plus importantes et qu'elles ne sont simplement pas intervenues au moment de la révolte des boxers, ce dont les acteurs européens avaient eux-mêmes conscience. Donc d'un seul coup, avec ce petit contrefactuel-là, on sort du grand récit européen, on retourne aux sources et on arrive dans une histoire beaucoup plus riche, à parts égales si j'ose dire, entre d'un côté l'Empire chinois et de l'autre le grand récit européen. Oui. Donc c'est finalement ceux qu'on connaît le mieux, c'est sur les périodes qu'on connaît le mieux qu'on fait les meilleurs contrefactuels.
Oui, on voit bien effectivement que ça s'inscrit aussi dans ce mouvement sur l'histoire connectée que vous représentez, Pierre Saint-Garvelou, sur l'histoire mondiale, l'histoire globale, je ne sais pas comment on l'appelle. En tout cas, que c'est effectivement une autre façon de raconter l'histoire parce que ça permet aussi de donner à des acteurs qui n'ont pas eu la parole, par exemple, la possibilité de la voir par l'intermédiaire de l'histoire contrefactuelle.
Exactement. L'analyse contrefactuelle permet d'inverser les perspective et donc de restituer le point de vue des vaincus. Et c'est pourquoi le raisonnement contrefactuel se loge au cœur de l'histoire globale, de l'histoire impériale, de l'histoire coloniale.
Parce qu'elle réintroduit de l'étrangeté finalement, un objet que parfois on a déjà beaucoup trop fréquenté.
Exactement, elle permet de décentrer le regard. Et il existe de nombreux exemples. Il suffit d'observer le nombre d'études sur l'aventure de Zheng He, cet amiral chinois, musulman, qui, à la tête de 300 jonques et 28 000 soldats, a mené plusieurs expéditions au début du XVe siècle, jusqu'en mer Rouge, en Asie du Sud-Est, etc. Donc cet épisode a suscité, a fasciné les historiens depuis Brodel, Chenu, jusqu'à aujourd'hui Patrick Boucheron. Ils l'ont diversement interprété. Par exemple, pour Chenu, c'est une incongruité, il ne comprend pas très bien cette espèce d'exception dans la politique isolationniste chinoise de longue durée. Tandis que Patrick Boucheron, lui, au contraire, il considère que c'est un moment d'ouverture des possibles et c'est précisément le moment où d'autres mondialisations auraient été possibles.
Merci à tous les deux d'être venus présenter en ouverture d'une semaine. On va reparler de votre livre toute la semaine, ou plus ou moins, puisque c'est à l'occasion de sa parution que nous avons décidé avec Anaïs Quin de consacrer cette histoire, cette semaine, à l'histoire alternative, l'histoire conjecturale, l'histoire contrefactuelle, l'histoire des possibles, l'histoire alternative, enfin voilà, l'histoire uchronique, etc. Tout cela, ça sera présent dans toute cette semaine, en l'occurrence.
Absolument. Et donc, je vais commencer par la fin. Donc, je vais commencer par jeudi. Jeudi, on a décidé de passer un petit peu à la main à une autre discipline en invitant des juristes pour leur demander si la question même de l'élaboration des lois relève du contrefactuel. À partir d'un exemple très concret qui est celui du traité de l'espace en 1967, le moment pour la première fois on écrit un traité international qui régit les usages futurs finalement de l'espace qu'on commence à peine à fréquenter. Et puis mercredi, on a proposé un exercice à deux historiens, Michael Luquen et Nicolas Patin. On leur a demandé, donc tous les deux respectivement spécialistes de l'histoire du Japon et de l'Allemagne au XXe siècle, de relire avec nous
une uchronie,
le maître du haut château, et de nous donner leur lecture, finalement leur grille de lecture historienne de ce chef-d'œuvre de la science-fiction.
Et demain?
Et demain, un documentaire que j'ai élaboré avec Anne Fleury sur Impossible si le mur de Berlin n'était pas tombé.
Un extrait.
Une des contributions qui ouvre l'ouvrage, c'est des photos de Adèle Couture qui montrent en fait une famille prenant le thé dans Berlin-Est, puisque c'est légendé, on sait que c'est à Berlin-Est, on sait que c'est le 9 novembre 89, et ils prennent le thé. Il se passe rien le 9 novembre 89 dans Berlin-Est. Donc en gros, on a voulu non pas d'emblée dire « voilà, le mur de Berlin n'est pas tombé pour cette raison », mais dire juste « il s'est rien passé », en fait, de faire une histoire en creux, en fait. Et ensuite, on a agencé les autres contributions au fil de l'ouvrage, selon les lieux où elles se passaient, puisque à chaque fois, elles sont localisées et datées.
Zaporizhia, décembre 2013. Catherine II revient, intervention militaire en Ukraine. De mon refuge, j'ai pu entendre des rafales d'armes automatiques provenant du bois qui occupe le centre de l'île. selon une information non vérifiée.
Et qu'est-ce qu'il lui a appris ?
Quels seraient ceux d'exécution sommaire ?
Je ne sais pas, patron, mais ça ne va pas leur plaire. Ça ne va pas leur plaire du tout. J'ai surligné en rouge les passages. Oui, je vois. Ici, par exemple, le mur était enfin tombé. Dans quelques semaines, l'Europe de l'Est serait en feu. Des révolutions simultanées en Roumanie, Tchéquie, dans les petits... C'est n'importe quoi.
Paris, 22 mai 2004. Le Monde. Communisme vénézuélien, un 10e anniversaire en demi-teinte.
La seconde cassette se déroula à son tour, le son grésilla un peu. Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. Julien sentait la voix du chanteur vibrer en lui. Il se sentait en résonance avec cet homme. À l'amicale du fusillé, on dit qu'ils sont tombés pour rien. André coupa net. Non, putain, c'est le meilleur passage!
On l'a compris, ce sont des étudiants qui ont pris cette hypothèse au sérieux, qui ont écrit des textes.
Et des étudiants, mais pas seulement. C'est un groupe d'étudiants qui lance le projet, l'appel à texte, et qui reçoit des propositions de personnes plus âgées qu'eux. C'est-à-dire que ces étudiants ne sont pas nés ou à peine au moment de la chute du mur de Berlin. Et les réponses vont émaner de gens qui étaient adolescents en 1989, d'autres qui étaient déjà bien adultes et très avancés dans leur vie professionnelle. Et donc c'est ce que vous découvrirez demain.
Dans le documentaire que vous avez réalisé avec Anne Fleury, une proposition pour finir. Anaïs Quin, à propos de cette histoire des possibles.
Donc oui, je me demandais pour faire suite à ce que j'annonçais en introduisant cet ouvrage pour une histoire des possibles, analyse contrefactuelle et futur non advenu du passé, peut-être de reprendre cet exercice, ce jeu collectif finalement que vous relatez à partir de la page 311 de votre ouvrage, Pierre Saint-Garavelou et Quentin Durmoz, et peut-être d'organiser avec les auditeurs de la Fabrique de l'Histoire de recommencer, de se prêter à nouveau à un exercice qui serait évidemment, avec Quentin de Mermoz et Pierre Saint-Garavelou.
Vous en serez d'accord ?
Bien volontiers, nous prenons date.
On verra ça. Donc, si des auditeurs sont intéressés par cette histoire de l'histoire contrefactuelle, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter sur le site internet de France Culture, on organisera la rencontre. Ce matin, nous vous avons parlé de Abraham de Swann, divisé pour tuer les régimes génocidaires et leurs hommes de main, et de Quentin de Lermoz, Pierre Saint-Garavelou, pour une histoire des possibles, analyse contrefactuelle et futur non advenu du passé, tous les deux publiés au Seuil. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vona Bolivier et Aurélie Marcet. Bruno Gagnère-Fontanier était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Allez sur le site internet pour trouver tous les renseignements complémentaires de cette émission.